Matière à réflexion, avril 2020. Genèse au pluriel. L'instant qui précède la naissance de l'univers est une virtualité sans objet, toute possibilité de remplotte dans l'inexistence. Rien n'existe alors, pas même le rien. L'énergie incommensurable se concentre en un point qui n'est qu'un trou sans rebord, sans circonférence. Nul n'a jamais su expliquer la raison pour laquelle le vide perd soudain l'équilibre, pour matérialiser sa masse dans le feu d'une matière inextinguible. L'effondrement du zéro active une énergie exponentielle qui se répand à jamais, dans un temps, un espace et une gloire. C'est un scénario, une hypothèse, celle de l'océan incommensurable. Quoi ? L'univers aurait surgi de rien, comme un lapin sort d'un chapeau d'un magicien ? Vous voulez rire ? Comment expliquer ainsi de l'incendie ? Qui a craqué l'allumette pour mettre le feu au néant ? Qui a créé cette bulle de vie au milieu de la nuit éternelle ? Qui a renversé le contenu du vide de cet espace ouvert qui continue de s'étirer à l'infini? L'infini, l'infini, c'est cette chose impensable qui ne connaît pas de marche arrière. Qui a créé cet univers si ouvert qu'il en est effrayant? Entre Big et Bang, entre Yin et Yang, entre l'être et le néant, nos cœurs n'ont pas fini de faire de la balançoire. D'un côté la science, de l'autre la religion. Faites-moi confiance, j'arriverai à mettre tout ça dans mon petit cerveau. Le chercheur de vérité veut croire à toutes les explications. La dernière sera donc la bonne, jusqu'à ce qu'un petit malin la remette un jour en question. Nous le voyons bien, nous n'avançons réellement dans la compréhension des choses qu'en passant plus par-dessus tête. Plus il croit comprendre, plus l'homme de science avance dans le mystère. Nous cherchons la vérité et nous rencontrons la fable, sous toutes les latitudes, dans toutes les civilisations. Cette chose a peut-être un mode d'emploi, après tout. Visitons toutes les théories et laissons parler l'évidence. L'hypothèse du néant créateur fait assez peu de cas à la vie. Elle ne lui réserve qu'un pauvre statut d'exception, voire d'anomalie. Ce sont les conditions mêmes du vivant que l'univers ébauche peut-être en naissant. Comment pourrait-il en être autrement ? La poésie a sûrement son mot à dire. Elle ne s'est jamais gênée pour prendre la parole. Le poète a brassé quelques intuitions sur la route, mais il préfère revoir sa copie à l'aune de l'imagination. Il a redescendu l'échelle du souffle pour prendre un bain dans l'océan primordial. Il a remis en perspective l'étonnement et l'inconcevable, le vertige et la source. Il a revisité le chaos où la conscience affronte tous les dangers. Il a parfois absorbé aussi quelques substances pour l'aider à voyager. Il a palpé le pouls du présent pour en éprouver toutes les fibres. Il a déshabillé la nuit, scruté la naissance du jour, accueilli la vision de l'ineffable sur les ailes de l'instant, mené chaque pensée jusqu'à son aire de décollage, accompagné les fusées et les sondes qu'on envoie dans les hauts pâturages. Il a touillé sans relâche l'abîme sans fin dans lequel s'agite le feu brûlant de tous les principes. Il a même appris à fermer les yeux pour essayer de voir mieux encore. Il n'a jamais cessé de s'éveiller, d'agiter ses paupières dans tous les sens. C'est du centre de l'énigme qu'il parle, en tant que réfugié. A-t-il une autre destination que celle qui lui fait chaque jour courir le risque de puiser dans l'inépuisable ? Tout raisonnement poussé jusqu'à ses confins semble n'aboutir qu'à de pauvres apories. Notre étonnement est notre acte de naissance, mais ensuite, chaque jour qui naît nous ramène vers un commencement qui n'a pas d'autre origine que la nuit, l'inconscience du sommeil. Le rêve qu'on vit le jour se cuisine la nuit, écrit Malcolm de Chazal. L'univers est un cri d'effroi que l'on pousse entre deux néants. Nous n'avons pas d'autre choix que celui qui consiste à explorer ce vertige. Avril 2020. Animosité. Guerre aux gorilles. Comme toi, ma jeune amie, j'ai une affection profonde pour les animaux. Mais tu es plus sage que moi, car tu as cessé de manger de la nourriture carnée, comme vous dites, et de plus belles lurettes. Comme Michel Onfray l'a dit avant moi, je conspue les abattoirs pour mieux baver sur un bon steak, avec de la sauce au poivre, et mes adieux rapides aux meilleurs sentiments. La distance qui sépare mon cœur de mon estomac n'est pas encore bien gérée par mon cerveau. Au nom de l'imperfection, je te demande le temps de la réflexion. Je dois t'avouer que j'ai un peu peur du puritanisme qui se loge dans nos meilleures intentions, comme un ver dans un fruit. Attention, je ne suis pas en train de t'accuser, mine de rien. C'est aussi le sort des êtres humains que j'aimerais sauver en sauvant les animaux. Ça fait un paquet de monde à l'arrivée, autant dire le monde entier. C'est un truisme de constater que le mal que nous faisons à la vie, nous le faisons d'abord à nous-mêmes. La facture commence à être salée, tellement salée que certains d'entre nous ont commencé un régime sans sel. Comme toi, j'ai vu une âme dans les yeux des animaux. Je n'oublierai jamais le regard qu'un gorille adressait à ses visiteurs par un bel après-midi au zoo de Berlin. Pauvre con, qu'attendez-vous de moi, semblait-il nous dire, assis sur son derrière, en prenant le temps de toiser chacun d'entre nous. Sa dignité m'a vaincu ce jour-là, et je n'ai plus jamais remis les pieds dans un zoo par la suite. Avril 2020. L'anarcha. Note sur le traitement de la névrose collective. Quitte à être moraliste, autant l'être jusque dans les plus petites choses. Si Filou fait une grosse bêtise, il aura droit à une double ration de bonbons pour chat, même s'il a bien compris et fait déjà mine de se carapater, car je ne veux surtout pas activer dans son cerveau d'animal ce qui a compromis l'espèce humaine, les chemins de la récompense. Non, le pavlovisme ne passera pas dans notre maison. Notre chat doit rester anarchiste, royaliste, individualiste et opportuniste. Je ne me sens pas obligé de partager ses opinions politiques. Les chats sont entrés dans nos familles pour disséminer les gènes de nos détresses collectives. Nous croyons veiller sur eux parce que nous leur donnons à manger, mais comme les chiens, champions toute catégorie de la compassion, ce sont bien sûr eux qui veillent sur nous, comme des petits dieux miniatures. Nous croyons leur donner de l'affection, eux font leur boulot, en prenant en charge nos faiblesses. Ils le font tellement bien, les trois quarts du temps, qu'ils arrivent même à nous faire oublier que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, complètement névrosés.
C'était Matière à réflexion, texte et lecture de Dominique Dumont, guitariste écrivain. Avril 2020.